La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie de Johann Wolfgang Goethe est celle d'un érudit, d'un artiste, d'un homme de lettres, d'un haut fonctionnaire débordé et d'un amoureux insatisfait. Né à Francfort sur le Main en 1749, il a vécu avec sa sœur dans une relation de grande proximité jusqu'à la mort de celle-ci à l'âge de 26 ans. Après des études à Leipzig puis à Strasbourg, il s'installe à Weimar où il exerce de hautes fonctions jusqu'à devenir une sorte de premier ministre du Grand-Duché. Hormis 18 mois en Italie, il resta établi dans cette petite ville de Thuringe, Weimar, où il est mort à l'âge de 82 ans, comme nous l'a détaillé hier Sylvie Lemoyle au cours de notre émission biographique. Elle est à retrouver notamment sur l'appli Radio France. Et parmi les grandes œuvres de Goethe, on compte évidemment son célèbre Faust, reprise d'un mythe allemand qu'il a su moderniser et dont nous parlera demain Jacques Le Rider. Et puis nous nous arrêterons jeudi sur son voyage en Italie ainsi que sur le traité des couleurs de cet homme qui a également à son actif une œuvre dans l'ordre des sciences dites dures. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer l'ensemble de l'œuvre de Goethe et en particulier les souffrances du jeune Werther, nous sommes en votre compagnie, Claude Roels. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de l'œuvre de Goethe, dont vous avez édité la correspondance avec Schiller en deux volumes chez Gallimard. Vous l'avez traduit aussi. Vous avez réédité et présenté les conversations de Goethe avec Eckermann, toujours chez Gallimard. Et dans votre présentation à cet ouvrage, eh bien, vous disiez que tous ceux qui ont approché Goethe, ne fût-ce qu'une seule fois, ont été impressionnés par sa voix. Alors j'aimerais qu'on commence par là. Qu'est-ce qui frappait tellement les contemporains de Goethe quand ils l'entendaient parler ?
Alors, je pense que pour vous répondre, il y a un mot qu'il faut prononcer, c'est le mot théâtre. Il en a été question hier avec Sylvie Lemoyle, et au fond, lorsque la grand-mère de Goethe lui offre ce théâtre de marionnettes, ainsi qu'à sa sœur, il l'a dit lui-même dans Poésie et Vérité, c'est lui, le petit garçon, qui en profite le plus, qui est le plus fasciné par ce théâtre de marionnettes. Et théâtre de marionnettes, ça veut dire qu'il faut non seulement les gestes, mais la voix. Et cette voix qu'il avait, non pas travaillée comme on travaille une voix, mais qui s'était, si j'ose dire, affinée avec son âge, avec ses fonctions. Il avait un registre de voix absolument extraordinaire. C'était un conducteur d'acteurs, puisqu'il a été directeur du théâtre de Weimar, de façon très précise et très sérieuse pendant de nombreuses années. Et vraiment, je suis très content que vous posiez cette question, parce que sa voix, effectivement, que nous n'avons pas, bien sûr, c'est ça le paradoxe, mais sa voix était quelque chose qui, je n'aime pas le mot envoûté, mais qui frappait toute personne, qui en tout cas frappait, non, qui accueillait, je devrais dire, toute personne qui était en présence de Goethe.
À tel point, et c'est assez impressionnant que d'apprendre cela, ses amis trouvaient que sa parole orale était meilleure que sa parole écrite ou imprimée, la seule qui nous reste et qui déjà nous impressionne pas mal.
Oui, mais je crois qu'ils avaient, ils étaient dans le vrai, parce que lui-même disait au fond, quand j'écris vraiment, c'est comme si je parlais aux gens. Il y avait toujours, et ça c'est quelque chose chez lui de constant, c'est quelque chose qui, c'est une voix qui, pour le dire d'un mot qu'on va peut-être retrouver, un verbalement très, qu'il emploie très très volontiers, c'est le verbe leben, et beleben, c'est à la fois fortifier, vivifier, encourager, et c'est tout cela qu'au fond sentait sa voix, et je crois qu'il y avait un rapport de proximité, d'accueil de sa voix qui était assez assez grand, mais qui pouvait aussi parfois être une voix qui se faisait distante, voire qui réprimandait par exemple des acteurs. C'est une voix en tout cas qui ne laissait personne indifférent.
Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas pu entendre, comme nous, la voix de Goethe. Elle était trop jeune, mais qui, en revanche, l'a lu, c'est Marlène Dietrich.
Goethe est la source et c'est la racine de toute mon éducation et de l'éducation de beaucoup de gens allemands de ce temps-là, parce que il n'était pas seulement poète et homme d'affaires et de politique, c'était aussi un homme qui comprenait tout et qui écrivait pas seulement des poèmes, mais qui écrivait des petites phrases pour aider les gens. Et il y avait toute une longue collection de ça. Et alors, si on a besoin d'un conseil de sorte, c'est tout ce qu'on doit faire, c'est d'ouvrir Goethe, et il y a une réponse à tout. Et comme il a aussi ce merveilleux romantisme dont on a besoin quand on est jeune, c'était alors la source tout à fait idéale pour la jeunesse.
Ich bin die Fischelolein, der Liebling der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in mein Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal.
L'actrice Marlène Dietrich qui soulignait l'importance de Goethe dans la culture allemande, c'était en 1963 au micro d'André Parrino. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'une actrice allemande célèbre comme Marlène Dietrich dirait aujourd'hui du rapport des gens d'aujourd'hui, des Allemands d'aujourd'hui avec Goethe, Claude Roels?
Bon, alors déjà, elle pourrait par exemple être assez critique. Il y a eu en Allemagne, il y a toujours une proportion notamment de la jeunesse qui trouve que, ben, ma foi, le Goethe des arrière-grands-parents, des grands-parents, voire des parents, ça commence à faire beaucoup et qu'il y a d'autres auteurs. Mais c'est en même temps très partagé, parce qu'il y a toujours ce retour à Goethe. Alors en Allemagne, c'est plus complexe, évidemment, et pour cause que chez nous, parce que il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur l'œuvre de Goethe et qui font d'ailleurs des découvertes, qui disent des choses. Mais ce que dirait une actrice allemande aujourd'hui sur Goethe, ça dépend tellement de sa sensibilité. Et je dirais, elle pourrait dire d'ailleurs les choses les plus violemment contradictoires, que cette violence de la contradiction composerait une harmonie encore avec ce qu'est Goethe. C'est ça aussi un peu la force de Goethe, c'est que au fond, il ne se laisse pas beaucoup prendre, et qu'en revanche, il est capable de concilier ou d'harmoniser, au sens presque étymologique du terme, les contradictions. Et donc, au fond, quoi qu'on puisse dire de Goethe, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus en Allemagne, vous avez raison de le préciser, surtout à l'époque où il y avait ces deux Allemagnes, comme on disait, notamment en Allemagne de l'Ouest, il y a eu, mais beaucoup d'autres seraient capables d'en parler beaucoup plus savamment et précisément que moi, une sorte parfois d'américanisation de la langue qui fait qu'on n'était plus tellement dans la langue que de la langue de Goethe.
On le lisait davantage à l'Est qu'à l'Ouest.
Alors, davantage à l'ouest plutôt qu'à l'est, puisque l'américanisation était plutôt, évidemment, et pour cause, à l'ouest. Ce qui veut pas dire que l'Allemagne de l'Est, bon, elle a fait aussi un travail de conservation et d'entretien, puisque Weimar se trouvait en Allemagne de l'Est, qui est tout à fait louable. Mais au fond, aujourd'hui, qu'il n'y a qu'une Allemagne réunifiée depuis déjà longtemps, ben, je ne suis pas certain que Goethe, je dirais, bouleverse les foules allemandes.
Il faut dire que depuis Goethe, il y a eu le roman policier, le cinéma, la poésie expressionniste, le surréalisme, la bande dessinée, le jazz, la techno, et évidemment, lire un roman épistolaire, Les souffrances du jeune Werther, ben, ça paraît peut-être un petit peu anachronique. C'est peut-être ça que la jeunesse allemande a du mal, finalement. C'est peut-être pour ça que la jeunesse allemande a un peu de mal aujourd'hui avec Goethe.
Oui, c'est un problème aussi, c'est le rapport à la langue, parce que la langue n'est plus, et pour cause, n'est plus la même, mais pas seulement pour une raison d'époque, pour des raisons aussi de tournure. C'est vrai que Il y a énormément de changements. Maintenant, je ne suis pas persuadé que, justement, les souffrances du jeune Werther soient le roman, ou le texte, en tout cas, de Goethe, qui est le plus souffert de cette temporalité. Je pense qu'un jeune Allemand d'aujourd'hui, où qu'il soit en Allemagne, peut très très bien se retrouver, du moins éprouver des choses fortes en lisant les souffrances du jeune Werther.
Iphigénie, peut-être, serait plus difficile, même si Klaus-Michael Gruber l'avait monté, notamment au théâtre de Bobigny en 1998. C'est quand même une pièce assez difficile à monter, comme peut-être souvent les pièces de Goethe. Qu'en pensez-vous, Claude Roels?
Oui, alors là, effectivement, c'est deux choses. Sur Iphigénie, on a longtemps fait, on fait d'ailleurs toujours, une lecture, je dirais pas momifiante, mais quand même, une lecture d'Iphigénie, trouvant que c'était absolument superbe, mais que d'abord c'est pas tellement fait pour passer au théâtre, et puis surtout c'était une sorte de d'idylle qui se voulait apolitique. Si on lit par exemple attentivement ce que dit Hegel, à l'époque du vivant de Goethe, puisqu'il avait même été professeur à l'université de Jena, Hegel plutôt dit que Iphigénie a une dimension politique. Donc vous voyez, et je pense que c'est ainsi qu'on peut la monter au théâtre, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a tellement de potentialités dans cette œuvre immense et multiforme, vraiment, de Goethe, que, au fond, je dirais pas qu'on peut y trouver ce qu'on veut, parce que ce serait surtout pas lui rendre justice, mais il y a des potentialités qui n'ont peut-être pas été exploitées. C'est-à-dire que, sous couvert d'un conservatisme dans lequel on l'a parfois un peu enrobé, je dirais que son œuvre elle-même se dérobe, justement, n'arrête pas de se dérober de ce conservatisme. Et qu'au fond, si on voulait anticiper sur le titre de l'émission d'aujourd'hui, pourquoi lire Goethe aujourd'hui, il y a un homme qui avait parfaitement répondu à cette question, c'est Nietzsche, qui disait: des hommes très riches d'énergie, comme par exemple Goethe, parcourent à eux seuls autant de chemin qu'en pourront tout juste faire 4 générations à la suite. Mais aussi ils avancent trop vite, tant et si bien que les autres ne les rejoindront qu'au siècle suivant. Donc comme il écrivait à la fin du 19e, ça veut dire le 20e, et il ajoutait, peut-être même pas complètement, ce qui nous laisse, voyez, un espoir pour ce début du 21e siècle.
En tout cas, c'est vrai, pardonnez-moi, que Goethe, très énergique, c'est finalement... pas dilué, mais enfin à tester et avec grand succès beaucoup beaucoup de genres littéraires. Il a été, vous l'avez dit, homme de théâtre, mais aussi auteur d'aphorismes. Il a été artiste, hein, plus de 2500 dessins, donc on excède encore là le
exactement,
genre littéraire, scientifique aussi, et puis poète. Et j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu justement là-dessus. Il est considéré comme le créateur de la poésie lyrique allemande moderne, et même le rénovateur de la poésie épique avec Hermann et Dorothée. Est-ce un grand poète? Est-ce qu'on oublie un peu le poète, Claude Roels?
Alors, vous avez raison de poser la question, parce que longtemps, on a fait de Goethe, pour des bonnes ou de moins bonnes raisons, un sage. Bon, ce qui voulait à la fois tout dire et pas dire grand-chose. Et on se réfugiait derrière cette image de sage à laquelle on a collé parfois même l'adjectif olympien, et ce qui veut dire qu'on avait un Goethe complètement marmoréen, en fait, c'était du marbre. Bon. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et sinon, il n'aurait jamais été poète. Je crois que celui ou ceux qui nous ont réappris la dimension poétique de Goethe, c'est par exemple quelqu'un comme Rilke, qui dit que qui était pas du tout porté à lire Goethe, vraiment, et qui se met à le lire, et il dit mais je trouve quelque chose de parfaitement émouvant dans ces poésies. Et au fond, ne parlons pas de Peter Handke, beaucoup plus proche de nous, qui dit que quand il lit Goethe, il a envie de relire ses propres travaux, et que ça lui fait pas du tout l'effet que lui font les journaux. Donc il y a cet effet qui est évidemment plus fort pour un Allemand, puisque c'est une langue, il écrit en allemand évidemment, bon, mais il est suffisamment, il a une dimension suffisamment européenne pour nous concerner tous, et c'est vrai que vous avez raison, on a on a eu tendance à oublier le poète. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on l'a relégué. On ne pouvait pas le nier comme poète.
Mais on l'a peut-être un petit peu oublié, alors qu'il y a, comme vous le dites, des poèmes extrêmement émouvants, pas marmoréens du tout, comme par exemple « Le roi des aulnes » que je vous propose d'écouter, puis vous le commenterez ensuite pour nous.
Qui chevauche si tard dans la nuit et le vent ? C'est le père avec son enfant. Il serre le jeune garçon dans son bras. Il le serre bien et lui tient chaud. Mon fils, pourquoi caches-tu avec tant d'effroi ton visage ? Père, ne vois-tu pas le roi des aulnes ? Le roi des aulnes avec sa traîne et sa couronne. Mon fils, c'est un banc de brouillard. Cher enfant, viens donc avec moi. Je jouerai à de très beaux jeux avec toi. Il y a de nombreuses fleurs de toutes les couleurs sur le rivage. Et ma mère possède de nombreux habits d'or. Mon père, et n'entends-tu pas ce que le roi des aulnes me promet à voix basse ? Sois calme, reste calme, mon enfant. C'est le vent qui murmure dans les feuilles mortes. Veux-tu, gentil garçon, venir avec moi ? Mes filles s'occuperont bien de toi. Mes filles mèneront la ronde toute la nuit. Elles te berceront de leurs chants et de leurs danses. Mon père, ne vois-tu pas là-bas les filles du roi des aulnes dans ce lieu sombre ? Mon fils, je vois bien, ce sont les vieux saules qui paraissent si gris. Je t'aime, ton joli visage me charme, et si tu ne veux pas, j'utiliserai la force. Mon père, maintenant il m'empoigne, le roi des aulnes m'a fait mal. Le père frissonne d'horreur, il galope à vive allure. Il tient dans ses bras l'enfant gémissant. Il arrive à grand-peine à son port. Dans ses bras, l'enfant était mort.
Une lecture par Guillaume Gallienne. Alors on peut faire diverses interprétations de ce poème. Des psychanalystes y ont vu la perte de l'innocence de l'enfant au moment où il va devenir un homme. Pour d'autres, c'est un enfant qui hallucine dans la fièvre, dans la maladie. Pour d'autres encore, c'est la relation d'un viol ou alors le cauchemar que l'enfant fait de ce viol, voire le traumatisme d'un viol qu'il aurait subi. Comme quoi on peut vraiment actualiser beaucoup ce poème « Le roi des aulnes ». Comment est-ce que vous le lisez, Claude Roels, et quelle analyse vous pourriez en faire ?
Alors, je ne me risquerai pas une analyse ici, parce que en fait, il faudrait quand même aussi la faire par rapport au texte allemand. Et j'en profite pour dire que c'est un poème qui était connu, qui l'est peut-être d'ailleurs encore, mais je pense beaucoup moins, mais des générations entières de petits Français qui apprenaient l'allemand. Apprenaient deux textes vraiment de Goethe en particulier. Ils apprenaient trois exactement. Ils apprenaient le roi des aulnes. Alors en le massacrant parce qu'il fallait rythmer. Il y avait un côté presque mécanique qui tuait justement le côté poétique qui a été remarquablement bien rendu. Et voyez ce que peut faire une voix qui si j'ose dire, quand elle est bien, quand elle répond à ce qu'est une dimension poétique, nous laisse nous autres sans voix. Donc c'est quand même très fort. Bon, eh bien, mais donc ce que je voulais vous dire, c'est que le roi des aulnes a, je dirais, l'insistance sur un poème, exactement d'ailleurs comme pour Rimbaud, le Dormeur du Val. Si on veut massacrer le Dormeur du Val, on s'intéresse aux anthologies de la poésie française qui parlent de cela. Eh bien, vraiment, ça a été le cas. L'autre poème, c'est de l'autre texte de Goethe, et c'est amusant parce que c'est aussi un enfant, une enfant. Et l'hésitation est presque, et pour une fois, a du sens. C'est mignon. Et dans beaucoup de textes de manuels allemands, on apprenait la danse des œufs de mignon, c'est-à-dire cet enfant androgyne dont au début on ne sait pas trop si c'est une fille, un garçon quand elle apparaît. Et c'est là encore, c'est extraordinairement troublant. Eh bien, ces deux textes, vous voyez, qui sont quand même très très forts, je crois qu'il faut leur redonner, comme vous venez de le faire, toute leur potentialité, en disant lisez-les et puis voyez ce que ça fait. C'est-à-dire que il faut aussi expérimenter un peu l'œuvre de Goethe. Alors évidemment, nous en faisons l'expérience en français. C'est-à-dire nous faisons en français l'expérience d'un auteur que les Allemands appellent Goethe et que nous appelons Goethe. Il y a même Aubert de Vitry qui était un des traducteurs de Goethe en 1823 les premiers livres de Poésie et Vérité, enfin les trois premières parties. Et bien, il avait mis dans une petite note, on prononce Goethe, G-U-E-U-T-U-E, en écrivant comme ça, pour justement que des Français puissent prononcer à la française. Donc, c'est vrai que, encore une fois, quand on parle de poésie, c'est d'abord une poésie allemande, mais ça montre la force d'une traduction et la force d'un comédien, d'un acteur, montre que ça passe très très bien en français. Mmh. Et vous avez parfaitement raison, là ça illustre parfaitement notre propos.
Alors il faut dire aussi que ce roi des aulnes, il chevauche dans les marécages et la nature autour de lui est plutôt maléfique, pleine de brouillard, de vieux saules qui paraissent si gris. Pourtant la nature d'habitude chez Goethe, non seulement elle est extrêmement présente, mais elle est plutôt riante, non ?
Oh, elle n'est pas toujours riante. Elle est la nature. C'est-à-dire, il avait dit un jour, die Natur hat immer recht, la nature a toujours raison. Parce que si on discute avec un homme, un autre homme, ma foi, on peut avoir raison, on peut avoir tort. Bon, les torts et les raisons peuvent être partagés. Tandis qu'évidemment, la nature a des lois absolument immuables et très fortes. Mais je pense que il avait quand même l'idée, et ça a été dit hier, et je pense que aussi bien mes amis, le Reader que Lacoste le diront dans les jours qui viennent, c'est qu'au fond, il y a chez Goethe une sorte d'ordre du monde, mais il faut pas chercher l'ordre au sens où ce serait le contraire du désordre. Ce qu'il entend au fond par monde, ce serait ce que les Grecs, si vous voulez, appelaient cosmos, c'est-à-dire non pas un tout englobant, mais cosmos, c'est aussi un mot grec qui veut dire la parure, c'est-à-dire que c'est le monde qui paraît au comble de son éclat. Et la nature chez lui, c'est un autre mot pour un mot qu'on trouve aussi très 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 fortement lié par exemple à celui de Dieu, exactement comme chez Spinoza, ça c'est la dette spinoziste, si j'ose dire, de Goethe. Mais c'est la nature, elle, bien sûr qu'elle peut être, elle est de toute façon ce qui ce sans quoi nous ne pouvons rien, et en ce sens-là il y a une modernité extraordinaire de Goethe. Par exemple, il dit, si nous voulons examiner la nature, il faut lui reconnaître des droits. Il a parlé de droits de la nature. C'est quand même, il dit, voyez, il dit ça dans les années 22-23 à Marianne Bad, donc quand il était au zoo, il dit, si le naturaliste veut conserver son droit d'observer et d'examiner librement la nature, il doit se faire un devoir de garantir les droits de la nature.
Et là, vous avez prononcé un mot qui est très important, c'est le mot de naturaliste, parce que cet ordre du monde dont vous parlez rejoint la poésie, fait se joindre la poésie avec les sciences naturelles. Et c'est là que, exactement, au fond, on comprend un peu mieux comment Goethe peut s'intéresser à autant de choses, de la géologie la biologie, à évidemment la littérature.
Mais exactement. Alors là vraiment, c'est vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. C'est qu'au fond, il n'y a pas justement des domaines ou des parce qu'évidemment dans les œuvres de Goethe, on passe de l'un à l'autre. Mais ça, c'est artificiel. Dès qu'on lit Goethe, si on lit par exemple un texte poétique, on est ramené en fait à une vision, une intuition qui relève des sciences de la nature, des sciences naturelles. Et un exemple très précis, il y a un passage où il dit quand il s'agit de choses vraiment sérieuses, graves, profondes et essentielles, on passe d'une langue courante à la langue poétique. Où dit-il cela ? Il dit cela dans un texte scientifique, il faut aller chercher là-bas, vous voyez. Donc autrement dit, Goethe, c'est tout sauf quelqu'un qui classé de façon systématique et faisait des barrières parfaitement imperméables. Au contraire, il y a une perméabilité absolument flagrante de toutes ses œuvres. Et ça, c'est ça qui est frappant d'ailleurs chez lui.
Alors, je vous propose d'écouter justement à ce sujet ce qu'en disait l'écrivain Pietro Citati.
Il étudie surtout dans sa vieillesse la géologie et encore la biologie et tout, enfin. Et puis il étudie les nuages, les formes des nuages, les différentes formes de nuages. Alors c'est une immense œuvre dédiée à la chance. Mmh. Et c'est une œuvre très importante pour Goethe. Goethe, ce n'est pas un dilettante, parce que à cette époque-là, à son époque, on décriait, on parlait mal de son activité scientifique, pendant que il a des idées merveilleuses qui ont eu beaucoup d'importance pour la science de notre siècle. Et dans le fond, si on lit un grand physique contemporain, un physique qui étudie la naissance de la Terre, on voit qu'il n'est pas tellement loin de Goethe. Il y a c'est une espèce de théologie naturelle, comme la théologie naturelle des anciens Grecs. Mmh. C'est la même chose. Et là, la nature, c'était très important pour lui parce que c'était le contraire de l'histoire. Dans le contraire de l'histoire. Au commencement, au moins, il voyait dans la nature l'harmonie. On jetait un développement harmonieux, et pendant que l'histoire c'était le contraire, c'était le chaos.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors dans ce rapport à la science de Goethe, Claude Roels, il faut peut-être insister sur l'aspect empirique de Goethe qui vit dans les objets, dans les actions, dans les êtres, qui dit à Eckermann « je ne suis vraiment apte à penser qu'en agissant ». C'est peut-être là aussi de cette façon qu'il est notre contemporain, parce que on vit dans une société qui veut de l'action, on se méfie un petit peu des pensées abstraites, et lui aussi avait une certaine aversion pour la théorie pure.
Alors, tout à fait, puisqu'au fond, pour lui, au fond d'une expérience, il y a déjà la théorie. C'est-à-dire, on voit, puisque théorène, c'est un mot grec qui veut dire au fond la vue, hein, et il y avait cette idée que si une expérience si était bien fait, et je parle pas seulement physiquement, mais c'était un homme qui s'est mis en danger, qui a expérimenté sa vie. Enfin, c'est un homme d'expérience, et le comble de l'expérience pour lui, ou le sommet d'expérience, étant évidemment l'expérience poétique. Mais c'est justement avec cette expérience poétique qu'il abordait la nature, ce qui fait que ça a pu aussi sembler un peu étrange à de purs scientifiques. Mais aujourd'hui, on en récolte un peu le fruit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne scientifiquement doivent être acceptés. On ne peut pas faire de Goethe un scientifique hors pair, mais il a vis-à-vis de la science une espèce de à la fois d'allant et de recul qui aujourd'hui nous est beaucoup plus bénéfique qu'il l'était dans un temps de positivisme. Vous voyez, ça c'est très bien vu. Donc au fond, c'est en ce sens-là qu'il est une sorte de contemporain qui nous précède, si vous voulez. Goethe.
Alors la théorie pure ne l'intéresse pas, vous le dites bien, il faut que cette théorie soit incarnée dans l'action. Est-ce que ça peut nous conduire au thème du romantisme ou à celui du Sturm und Drang, qui est donc ce courant dont on a déjà un petit peu parlé hier, dont Goethe est le chef de file dans sa jeunesse, au moment justement où il publie Les souffrances du jeune Werther, et où il y a quelque chose qui relève de l'action quand même, qui a envie, en tout cas les personnes qui font partie de ce mouvement ont envie de retourner la table.
Alors oui, il retourne la table et au besoin ce qu'il y a dessus et les gens qui sont même assis à côté de cette table ou voire dessus. Donc ça, vous avez raison. Mais au fond, l'activité de Goethe, surtout pas l'activisme, mais l'activité de Goethe n'a cessé de se manifester tout au long de sa vie. Et il a eu un mot quand même pour expliquer cela, c'est un adjectif qui revient sans cesse dans sa bouche et qui va même donner lieu à un substantif qui est le substantif productivité. C'est productif. Il faut être productif. Alors, pas productif au sens, bien sûr, où l'entend un patron un peu par rapport à des employés ou des ouvriers, mais il s'agit, quand il parle de productivité, c'est vraiment la capacité à créer, au fond, et derrière tout ça, vous voyez, on retrouve ce mot grec de poésie, qui veut quand même dire faire, donc il y a un faire, mais pas faire au sens de faire quelque chose. C'est au fond l'acte véritablement poétique ou poétique du poème, c'est faire apparaître. Donc Goethe est celui qui fait apparaître au fond ce qu'on a devant les yeux, ce qu'on ne sait pas voir.
Et qui fait apparaître aussi,
il est poète.
L'originalité de l'écrivain, le génie, c'est aussi un mot qu'on a utilisé hier.
Oui.
Est-ce que c'est ça le Sturm und Drang? Est-ce que c'est le culte de l'originalité géniale?
Tout à fait, mais alors ça n'a eu qu'un temps, et Goethe lui-même s'en est un petit peu s'est moqué un peu des excès auxquels avait pu donner lieu le Sturm und Drang, de même qu'il s'est moqué aussi d'une sensibilité excessive à la nature. Donc c'est quelqu'un aussi qui, si vous voulez, ne s'installe pas à demeure dans une position. Goethe, c'est tout sauf un dogmatique. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'ailleurs les dogmes au sens de quelque chose de figé.
C'est pour ça qu'il a fui un petit peu le romantisme dont on considérait, alors vous allez peut-être pouvoir préciser ce point, qu'il était l'un des chefs de file.
Oui, c'est-à-dire qu'il se dégage à chaque fois, il se dégage de ce dans quoi il s'est engagé, mais parce qu'il est engagé au fond déjà ailleurs. Il a tellement une espèce d'énergie, comme on disait au début de l'émission, et il est tellement l'homme du productif que il faut qu'il puisse, et on va retrouver le roi des aulnes et la poésie, il faut qu'il puisse accueillir le ce qu'il y a dans le monde. Il a écrit dans le divan un texte où il dit, enfin il y a un passage, il y a une phrase du divan, ce remarquable recueil
de la fin de sa vie.
Où il dit le véritable poète a pour vocation d'accueillir en lui la splendeur du monde. Mais accueillir en soi la splendeur du monde, ça suppose une sacrée force, évidemment.
Alors, on a dit qu'on allait parler de Werther. C'est un roman de jeunesse qui correspond donc à ce moment du Sturm und Drang dont on était en train de parler avec vous, Claude Roel. Je vous propose pour commencer d'écouter ce qu'en disait Thomas Mann dans une lecture toujours de Guillaume Gallienne.
Son roman épistolaire, Les souffrances du jeune Werther, fut, dès le premier moment, plus qu'un événement de société, de chapelle ou d'école, bien plus qu'un événement allemand. Ce fut le monde, saisi, qui s'en empara. La sensibilité énervante et troublante de ce petit livre, qui fut le cauchemar des moralistes, bien qu'elle s'y mêle à une si grande compréhension de la nature, à une si juvénile nostalgie d'infini, déchaîna une véritable tempête qui déborda toutes les frontières, provoquant dans le monde entier une ivresse, une fièvre, une extase incroyable, comme l'étincelle qui tombe dans la poudrière et libère brusquement un dangereux potentiel de force. Sans doute les âmes étaient-elles toutes prêtes à recevoir ce choc. Ce fut comme si les lecteurs de tous les pays, sans le savoir, en secret, n'avaient jamais rien attendu d'autre que ce livre d'un jeune citoyen allemand, encore anonyme, cette œuvre qui faisait droit à la nostalgie contenue de toute une civilisation pour une libération vraiment révolutionnaire. Comme un coup dans le mille ou quelques formules d'exorcisme. Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon, homme de fer au sombre destin, emportait sur lui une traduction française. Il prétendait l'avoir lu 7 fois.
Des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce qui explique, Claude Roels, l'énorme fièvre qu'a engendré la parution de ce roman, Les souffrances du jeune Werther ?
Alors, pour répondre à votre question, au fond, il faut se reporter à ce que nous disions il y a une minute. Goethe est celui qui, au fond, en tant que poète, parvient à dire la plénitude du silence des autres et la plénitude du silence d'une époque. C'est-à-dire, une époque, c'est aussi un moment de suspens du temps. Et brusquement, ce temps qui était en quelque sorte suspendu, voilà qu'il va descendre en quelque sorte sur nos têtes et prendre la forme d'un petit livre. Parce qu'à l'époque, on écrivait aussi des grands romans, si j'ose dire, je dirais romantico-nunuche, si vous me permettez cette expression. Mais vraiment, là, on a, avec les souffrances du jeune Werther, le coup d'éclat, on a ce qui va marquer vraiment la littérature, non pas seulement allemande, mais la littérature européenne, parce que il est très très vite traduit, et pendant longtemps, lorsque, notamment en France, on parlera de Goethe, on dira l'auteur des souffrances du jeune Werther.
Mais où est la nouveauté, au fond, de ce livre? Qu'est-ce qui peut, encore une fois, expliquer son impact?
Alors, la nouveauté n'est pas tant dans le roman par lettres, puisque ça, on a des précédents même célèbres. Il est dans la critique sociale, alors très rattachée au Sturmundrang qui est inhérente, mais aussi au fait que le personnage du jeune Werther est certes quelqu'un d'ultra-sensible qui va en un sens se donner à la nature et puis se sentir rejeté par la nature, d'où cette fin. Mais même cette fin, ce n'est pas la fin d'un, ce n'est pas un pauvre suicide, si j'ose dire, si tant est qu'on puisse dire cela. Je pense à un texte de Dostoïevski où Dostoïevski dit, il parle de la prière du grand Goethe et en fait ce que dit Werther à la fin du roman quand il regarde les étoiles. Bon, et ça avait beaucoup frappé Dostoïevski. Donc c'est au fond Werther, c'est quelqu'un qui aussi ne demeure pas et qui, comment dirais-je, est presque un voyageur, mais un voyageur quasi immobile, puisque là il va rester quasiment dans les lieux, mais sauf que c'est un voyageur, et ce voyageur, ce pèlerin de l'absolu, si je puis dire, va évidemment être étouffé et au fond ce suicide sera terrible à la fin, mais va frapper les esprits. Il faut savoir que si Napoléon a été aussi sensible à Werther, c'est que lui-même, parce qu'ils en ont parlé, ça a été dit hier, ils en ont parlé lors de l'entretien, le fameux entretien qu'il y avait eu en 1808. Mais au fond, ce qui est extraordinaire, c'est que Napoléon avait écrit une petite nouvelle, qui tient en quelques pages, où le jeune homme à la fin se suicidait d'une certaine façon, puisque il allait trouver l'amour à la guerre, la mort pardon à la guerre pour un amour malheureux.
Mais donc, un peu comme dans Les souffrances du jeune Werther, mais il faut expliquer aussi que il y a eu une espèce de vague de suicide après la publication du livre. Donc c'est un livre qui a une influence réelle sur les gens qui le lisent, et ça c'est assez nouveau quand même.
Oui, tout à fait. C'est une résonance presque médiatique, on dirait aujourd'hui. Alors, vague de suicide, il y a eu des suicides. Bon, c'était pas, il y en a eu.
Mais les gens s'habillaient comme Werther.
Voilà. Ah oui, tout à fait.
Un culte finalement à ce personnage.
Mais c'était, ça a été. C'est pour ça que il y a une espèce de modernité de Werther, alors qui est pas forcément la meilleure, mais c'est aussi un roman à la mode. C'est un roman qui a été à la mode, qui a été une il y a eu une mode Werther. Vous avez tout à fait raison. Les gens s'habiller à la Werther, bon, et regardez, quand vous lisez Nerval, la fin de Sylvie Gérard de Nerval, c'est elle me trouve un air, je l'appelle parfois Lolotte, dit-il en parlant de Sylvie, elle me trouve un air de Werther moins les pistolets qui sont passés de mode, parce qu'il y a ce côté plaisant chez Nerval, mais c'était quelque chose de très très fort.
Alors aussi, il y a cette idée que finalement, cet amour de Werther, cet amour impossible de Werther pour Lotte, qui est déjà fiancée, bientôt bientôt marié à un autre garçon, Albert. Finalement, cet amour, il existe surtout parce que Lotte est déjà prise. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu trouble quand même dans la façon dont il l'aime, puisque il l'aime un petit peu comme les enfants aiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'érotisme, il n'y a pas particulièrement d'envie de la toucher. Il l'imagine sous les traits d'une infirmière douce et attentive qui apaise ses souffrances, ou d'une figure maternelle admirable et entourée d'enfants. Donc il y a aussi quelque chose qui a fait scandale dans cette manière étrange d'aimer, Claude Roels.
Oui, alors ça c'est une des façons dont Goethe voit la façon d'aimer, parce que effectivement on a eu après d'autres romans pour se scandaliser. Je pense notamment aux Affinités électives en 1809. Donc Goethe, alors c'est assez curieux, et ça on l'oublie aujourd'hui, il y a eu un Goethe qui n'a cessé de faire scandale et d'être censuré dans les pays de langue allemande de son vivant, ou après sa mort. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. C'est notamment un Allemand qui s'appelait Huben avait très bien étudié ça. Il y a des rapports de police sur Goethe dans différents États allemands, et notamment des États catholiques, où on disait non, quand même c'est pas bien, voilà.
En tout cas, Werther a beaucoup aidé Roland Barthes pas mal de décennies plus tard au moment d'écrire ces fragments d'un discours amoureux. Il s'en est beaucoup inspiré. Voilà ce qu'il en disait à François-Régis Bastide, qu'il interrogeait en 1977.
Il y a en tout cas deux grands types de sujets amoureux. Il y a, disons, le sujet amoureux dont la dominante est la jalousie. Oui. Disons en termes psychiques, enfin la paranoïa, l'amoureux paranoïaque. Or, il se trouve, je crois, que c'est surtout de cet amoureux-là que la littérature française, notre littérature, s'est occupée. Disons que de Racine à Proust, le sujet amoureux qui est mis dans nos romans français, c'est très facilement le jaloux, le oui. paranoïaque. Mais en face, il y a un autre type qui est beaucoup plus proche de celui que j'ai mis en scène, qui est le sujet amoureux, certes, dans le sentiment duquel il y a de la jalousie, il n'y a pas d'amour sans jalousie, mais il y a plutôt la requête d'une sorte d'union effusive avec l'objet aimé. C'est un sujet amoureux qui est certainement psychiquement très proche de la mère, qui reste dans la relation à la mère. Et de cela, alors, ce qui est le meilleur exemple littéraire, c'est certainement l'amour romantique allemand.
Werther, donc toujours convoqué par Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux, dont il dit au fond que pour lui c'est la passion à l'allemande, à la différence de la passion à la française. Est-ce que, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais qu'en pensez-vous, Claude Roels?
Oh, je dirais pas que c'est tiré par les cheveux, je dirais que c'est plutôt le fruit quand même là d'un vaste et intelligent lieu commun d'ailleurs, mais c'est la façon dont les Français voient parfois les Allemands, de même que la façon dont les Allemands voient aussi les Français. C'est vrai que là où nous disons « vive comme un coq en pâte », les Allemands disent « vive comme Dieu en France », donc vous voyez, c'est différent. Mais au-delà de ces différences culturelles qui sont aujourd'hui d'ailleurs assez finement étudiées, souvent les croisements Allemagne-France, plus peut-être que qu'il y a encore 10 ou 20 ans ou 15 ans, au-delà de ça, c'est vrai que les souffrances du jeune Werther sont d'abord effectivement un livre allemand, mais je crois que un Français peut parfaitement éprouver une passion de cette dimension. Tout à l'heure, où il y a un peu de temps, nous parlions de Nerval. S'il y a un auteur qui était proche si j'ose dire, dans une proximité poétique, j'entends, de Goethe, alors que il a une vie de vagabond, il n'avait aucun titre comme Goethe, qui avait tous les titres, tous les honneurs, etc. Mais tous les deux étaient frères en poésie, et Nerval et Goethe, c'est d'une proximité très très grande qu'on aurait intérêt à étudier. Donc c'est aussi cela, Goethe. Quand nous parlions tout à l'heure, hier plutôt, il avait été question de Stendhal. C'est vrai que Goethe va faire la critique d'un livre de Stendhal, donc enfin le premier ouvrage de Stendhal. Alors que personne quasiment n'en parle en France. Il parle de nos premiers grands auteurs, alors que la critique en parle à peine. Et il reconnaît à Nerval des qualités. Alors c'est vrai, des qualités de traducteur. Bon, Nerval sont contestables en tant que traducteur, mais
oui, parce qu'il connaissait finalement assez mal l'allemand. Il connaît pauvre Nerval, mais bon, c'est peut-être ce qui fait aussi que c'est un grand traducteur, c'est qu'il invente en partie.
Voilà, il était Nerval. Voilà.
Donc mais voilà. Pour terminer donc sur Werther, je voudrais qu'on entende une dernière archive qui est un extrait de ses conversations avec Eckermann, des conversations de Goethe avec Eckermann, et il dit que Werther a en effet fait époque.
Ah, Werther. Voilà un être que, comme le pélican, j'ai nourri avec le sang de mon propre cœur. Il y a là assez de mes émotions intimes, assez de sentiments et de pensées pour suffire à 6 romans, non en un petit volume, mais en 10. Je n'ai relu qu'une fois ce livre, et je me garderai de le relire. Ce sont des fusées incendiaires. Je me trouverai fort mal de cette lecture, et je ne veux pas retomber dans l'état maladif dont il est sorti.
On a prétendu que l'effet produit par Werther a tenu au moment de sa publication. Je ne puis accepter cette opinion généralement répandue. Werther a fait époque parce qu'il a paru, et non parce qu'il a paru dans un certain temps. Chaque homme, à quelques générations qu'il appartienne, renferme tant de souffrances inexprimées, tant d'amertumes secrètes, tant de lassitudes de l'existence, et il y a pour chacun en ce monde tant de relations pénibles, tant de chocs de sa nature contre l'organisation sociale, que Werther ferait encore époque s'il paraissait aujourd'hui.
Vous avez pleinement raison, et voilà pourquoi le livre a encore sur la jeunesse la même action qu'il a eu naguère. J'ai éprouvé moi-même ces troubles que j'ai prêtés à mon héros. Et je ne les dois ni à l'influence générale de mon temps, ni à la lecture de quelques écrivains anglais. Ce qui m'a fait écrire, ce qui m'a mis dans cet état d'esprit d'où est sorti Werther, ce sont bien plutôt certains tourments tout à fait personnel et dont je voulais me débarrasser à toute force. J'avais vécu, j'avais aimé, et j'avais beaucoup souffert, voilà tout. On a beaucoup parlé d'une époque, Werther. Ce n'est pas du tout une époque historique déterminée. Elle correspond à une certaine phase de la vie de chaque individu. Nous sommes tous nés avec le sens de la liberté naturelle, et nous trouvant dans un monde vieilli, il faut que nous apprenions à nous trouver bien dans des cases étroites. Bonheur entravé, activité, génie, désir inassouvi. Ce ne sont pas là les vicissitudes que nous rencontrons dans une époque donnée. Chaque homme en éprouve le poids. Et c'est un malheur si quelqu'un ne peut croire à un instant de sa vie que Werther ait été écrit pour lui seul.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Voilà pour cet extrait des conversations avec Eckermann, lu par Michel Bouquet et Louis Arbessier. On pourrait peut-être terminer, Claude Roels, dans le temps qui nous reste, avec deux autres livres importants de Goethe, Wilhelm Meister et les affinités électives. Enfin, en ce qui concerne Wilhelm Meister, c'est pas un seul livre, c'est même plusieurs livres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le projet de ce livre et qui est au fond ce personnage de Wilhelm Meister ?
Alors, le personnage de Wilhelm Meister ne se comprend au départ que par rapport à la passion qu'avait Goethe pour le théâtre. Bon, Mais il y a, vous savez, une première version de Wilhelm Meister, puis il y a les années donc d'apprentissage de Wilhelm Meister de deuxième version, et puis il y a les années de voyage de Wilhelm Meister, comme on dit. Bon, ce qui fait beaucoup, ce qui fait au fond, on s'aperçoit que certains textes comme Goethe, comme Wilhelm Meister, c'est des textes que Goethe a portés quasiment toute sa vie. C'est ça quand même qui est extraordinaire.
C'est une obsession.
Oui.
C'est une obsession. Oui. C'est une obsession en fait pour lui, ce personnage.
Oui.
Du coup, ça nous intéresse d'autant plus parce que on voudrait savoir pourquoi il était aussi obsédé par ce personnage-là.
Ben, il était obsédé par ce personnage parce que ce personnage, c'était lui ressemblait quand même assez étrangement, et y compris au début, dans ces années où il est à Weimar, où il commence à s'intéresser au théâtre, la pratique de la direction presque d'acteur. Je pense que, vous savez, si Michel Bouquet a été autant touché par les conversations de Goethe avec Eckermann, c'est que cet extraordinaire acteur qu'est Michel Bouquet a ressenti quelque chose de très fort dans ce livre qu'il concernait lui en tant qu'acteur. Bon, et Wilhelm Meister, c'est cela. Et alors évidemment, après, on voit dans Wilhelm Meister aussi, notamment le second Wilhelm Meister, une, je dirais pas une critique sociale, parce que ce serait là encore peut-être un lieu commun de parler ainsi, mais je dirais il y a des passages où Goethe laisse percer son angoisse. Vous parliez d'obsession tout à l'heure, son angoisse devant ce monde à venir, parce qu'il sent un monde qui est celui des locomotives, alors que, imaginez, Weimar, qui était quand même un trou perdu à l'époque, bon, grand-duché ou pas, c'était, parce que d'abord ça a été un duché, puis un grand-duché, mais c'est quand même un peu une toute petite ville à l'époque, bon, eh bien, c'est là où il ressent les premières angoisses. Donc, ce qui est extraordinaire dans Wilhelm Meister, c'est qu'on a à la fois la jeunesse de Goethe et la vieillesse de Goethe quand on déploie les Wilhelm Meister, ou quand on les laisse, si je lui dire, plus doucement s'éployer comme ça devant nous, vous voyez.
Est-ce que les affinités électives ont aussi été écrites sur une longue durée, ou est-ce qu'au contraire, on est là dans un roman finalement, qui est plus un surgissement.
C'est plus un surgissement, tout à fait. C'est plus un surgissement, mais qui là encore a marqué le. On a souvent comparé les affinités électives et Werther, et c'est vrai que sur les affinités électives, il y a eu des questions morales venaient en quelque sorte contrarier la lecture en disant oui, mais tout ça est-ce bien moral?
Oui, parce que l'histoire, rappelons-la en deux mots, c'est quand même le passage d'un binôme à un quatuor. C'est un couple,
voilà, exactement,
qui tout d'un coup voit arriver chez lui un homme et une femme, et les voilà. Amours enfin deviennent croisés.
Voilà, exactement. Bon, et le tout dans des jardins rococo, dans des, bon. Mais si j'ose dire, le décor est encore très 18e siècle. Le propos est très moderne, et il y a même quelque chose d'assez à la fois amusant et terrifiant dans la lecture qu'on a pu faire des affinités électives. C'est que Baldur von Schirach, qui donc s'occupait des jeunesses hitlériennes, mais dont les parents habitaient Weimar, et qui était à peu près le seul nazi à s'intéresser vraiment à Goethe, bon, et à vouloir le récupérer pour des raisons de propagande, soyons là très très lucides. Les nazis n'avaient rien à faire avec Goethe. Écrit un petit texte où il dit, mais au fond, le Goethe qui nous aimons, c'est pas le Goethe cosmopolite, avec tous les sous-entendus que ça pouvait avoir pour un nazi, mais, dit-il, c'est quand même quelqu'un qui aimait l'ordre. Alors, le passage qu'il prend pour justifier Goethe, c'est un petit passage tiré des affinités électives où la baronne a habillé quelques petits domestiques avec des uniformes, et il y a un brave gars qui dit, oh bah tiens, c'est les uniformes, c'est bien, ça donne un peu ça virilise ces jeunes gens et tout. Et c'est ça, c'est ce petit passage de rien du tout qui a donné prétexte à Baldur von Schirach pour récupérer ou tenter de récupérer Goethe. Ce qui aujourd'hui nous fait sourire, mais ça en dit long quand même sur les pratiques de l'époque. Vous voyez, bon.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le titre Les affinités électives, très beau titre, mais qui, quand le roman est paru en 1809, a peut-être été un petit peu mal compris. comme le reste du roman d'ailleurs.
Très, très, très mal compris, parce que ça venait directement du domaine des sciences, enfin, de ce qu'on pourrait appeler les sciences naturelles, et donc c'est un Suédois, et donc au fond, Goethe, et c'est là, vous voyez, où on retrouve la perméabilité dont nous parlions dans toute l'œuvre de Goethe, entre science et la partie, enfin science, entre une partie savoir autour de la nature, et puis une dimension poétique d'écriture, là c'est clair dans ce titre. Donc vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ce titre, beaucoup de gens ne l'ont pas apprécié, y compris en France, c'est pareil. Il y a eu des critiques virulentes sur ce titre qui ne voulait rien dire.
Enfin, qui voulait dire qu'il y avait une sorte d'expérience scientifique qui montrait qu'il y avait des affinités dans la nature. Oui. Et finalement, Goethe dit qu'il y a des affinités électives.
Voilà.
C'est-à-dire que à un moment donné, c'est l'être humain qui fait partie de la nature.
Mais exactement, parce qu'il y a une espèce de partie de la nature. Tout à fait, vous avez raison. Nous faisons partie de la nature, et en ce sens-là, c'est la nature qui parle, et la voix de la nature est plus forte que la voix de tel ou tel humain. C'est oui, tout à fait, oui.
Est-ce que c'est un roman dont on doit faire un roman psychologique? Est-ce que cette analyse-là vous semble la bonne?
Alors, c'est vrai que je suis pas un chaud partisan de la psychologisation des choses, tout simplement parce que souvent, elle va à l'encontre de la poésie. Et quand je dis psychologisation, c'est pas évidemment une attaque contre les psychologues et la psychologie, ou les psychanalystes et la psychanalyse, puisque il y a un psychanalyste qui a quand même été, si vous me passez l'expression, c'est la deuxième expression que vous me passerez, un fan de Goethe, c'est quand même Freud. Bon. Donc, Freud qui fait une lecture très, très fine, parfois de Goethe. Bon. Et qui,
puis Barthes, c'est aussi de la psychologie, un petit peu, quand même.
Voilà, mais donc au fond, il y a chez Goethe une dimension poétique qui l'emporte très très largement sur toute psychologie.
Une dimension poétique, une dimension politique aussi. Est-ce qu'il y a une critique de l'institution du mariage, selon vous, dans les affinités électives? Parce que c'est vrai que tout cela explose, les conventions explosent quand même.
Alors, sauf que, évidemment, Goethe, on va pas trouver chez lui, et au contraire, une critique explicite du mariage. C'est-à-dire que si on veut faire de Goethe un théoricien d'une analyse critique de la société, on est un petit peu à contre-temps. C'est-à-dire on est trop actuel par rapport à cette présence de Goethe, qui signifie aussi un présent du monde, mais c'est aussi quelque chose qui, quand je parle de dimension poétique, il y a aussi le présent, au sens où le mot dit aussi bien le temps que le don. C'est-à-dire il y a quelque chose nous est offert quand on lit Goethe, et à nous de le prendre. Et c'est là où il s'agit de poésie, évidemment, et pas de psychologie. Et alors, c'est vrai aussi que cette dimension poétique peut, et ça c'est si vous me permettez de le dire, j'ai un livre en chantier qui va paraître, que je vais bientôt remettre à mon éditeur, les éditions du CNRS, qui s'appelle Goethe, un acheminement, et c'est vrai que j'insiste beaucoup dans ce livre sur les liens entre la dimension poétique et la dimension politique de Goethe. Une dimension poétique qui serait comme en quelque sorte l'impensé de Goethe, c'est pas explicitement ce qu'il a dit, mais c'est l'implicite plutôt de Goethe, voyez, voilà.
Et puis on pourrait rajouter que c'est à la fois poétique et dans une acception tragique, parce que c'est un roman particulièrement tragique. Mais malheureusement, nous n'allons pas avoir le temps de développer ce point. Il me reste juste à vous remercier, Claude Roels. Je rappelle que vous êtes philosophe, spécialiste de Goethe, en particulier de ses conversations avec Eckermann, mais aussi de bien d'autres choses. Et donc on attend le livre dont vous venez de nous annoncer la parution. À très bientôt.
Merci à vous, à très bientôt.
C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Jean-Guilain Meige. Demain, nous poursuivrons notre parcours dans la vie et l'œuvre de Goethe. Ce sera en parlant de sa pièce Faust, ou plutôt de ses Faust, car il y en a plusieurs. Nous serons en compagnie de Jacques Le Rider.